On va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut prendre ensemble ce matin. Dans ta parole, Seigneur, on veut te demander de venir nous bénir, de venir nous faire grandir en toi. Viens, Seigneur, nourrir notre pensée, faire une œuvre profonde et véritable, Seigneur, dans nos cœurs. Viens nous faire grandir à ton image. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, pour les fins de l'enregistrement, on est dans le cours « L'âme sœur » et on est à la leçon 2, « La vie célibataire et les fréquentations ». Et puis, vous pouvez trouver sur le site web les pistes audio du cours pour vous rattraper. Si vous avez manqué le début du cours, vous allez trouver aussi en PDF, disons d'ici une semaine, les notes des différentes leçons. La semaine dernière, on a commencé à regarder un peu le sujet du célibat. Donc, je vais juste vous rappeler, le cours est divisé en deux parties. 5 premières semaines, on parle du célibat. 7 dernières semaines, on parle des fréquentations. Et le cours ne s'adresse pas particulièrement aux adolescents. Les adolescents sont bienvenus, mais je vise vraiment les adultes de tout âge. La semaine dernière, on a terminé, dans le fond, la leçon, là, puis il nous restait un petit bout à faire. Alors, je vais juste compléter ça avant de passer à 1 Corinthiens. La semaine dernière, on a terminé la leçon en abordant toute la question de l'identité. On se définit comme personne à partir de catégories et la société nous les propose ou nous les impose, les groupes avec qui on se tient, la culture où est-ce qu'on est, le simple fait d'être des êtres relationnels, tout ça, on va définir qui on est, on va définir notre identité à partir d'un certain nombre de paramètres. On a dit la semaine dernière, homme, femme, riche, moins riche, ta profession, d'où tu viens sur la terre, tout ça. Dans notre image de nous-mêmes, ça va définir qui on est. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, puis je dirais avec un contraste très, très profond avec l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, l'identité quand même du peuple de Dieu était très, très forte. Puis lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, l'Évangile qui est là dans tout l'Ancien Testament, mais qui est exposé de manière extraordinaire dans le Nouveau Testament, vraiment, qui est mis en lumière, qui est ce mystère-là qui était comme en filigrane un peu à travers tout l'Ancien Testament, apparaît de manière très claire dans le Nouveau Testament. Et un des aspects les plus importants que l'Évangile apporte, c'est qu'il vient briser les barrières identitaires entre, par exemple, les différentes ethnies, les différentes origines, d'où tu viens, tu es juif, non juif. Et donc, ça a été une grosse question à l'intérieur de l'Église. Nous, en théologie, on va parler de l'Église primitive, pas dans le sens que c'était des primitifs, mais intéressant. L'Église du départ. C'est bon. Ils ont pensé à fermer la porte. Je me sentais dans un chant grégorien tout d'un coup. L'Église primitive, ça part avec un chant grégorien. C'est l'Église du début, d'accord? Puis, ça a été une grosse question. Le mariage dans l'Église entre les Juifs et les non-Juifs, puis comment on apprend à vivre ensemble, puis il y a eu des gros débats identitaires aussi, d'accord? Donc, les judaïsants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, par exemple, là, lorsque je parle de judaïsants, je ne parle pas de Juifs qui ont cru en Christ, mais je parle de Juifs qui, plutôt dans une approche légaliste, voulaient imposer aux païens, aux non-Juifs, tous les rituels juifs pour être convaincus de leur salut. Est-ce que vous voyez qu'on est en train de jouer dans l'identité lorsqu'on parle de ça? Comment est-ce que tu te définis? Tu veux être un chrétien? OK, si tu es un homme, tu n'es pas circoncis, tu vas te faire circoncis. Parce que les Juifs étaient circoncis. Les Juifs sont circoncis, donc tu vas aller te faire circoncis, d'accord? Wow, OK, non, c'est pas ça. Donc, on a commencé à déposer cette idée-là la semaine dernière que l'identité d'un individu, d'un chrétien dans le Nouveau Testament est vraiment dans ce qu'il devient en Jésus-Christ, dans cette nouvelle identité qui lui est donnée en Christ. Et celle qui est la plus forte, selon moi, à travers tout le Nouveau Testament, c'est le fait que je deviens un enfant de Dieu. J'entre dans une nouvelle famille, je suis admis dans la famille de Dieu et je suis un enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul va... Christ le fait. Christ, si vous êtes attentif dans les évangiles, déjà, il y a des comportements avec des non-juifs. Il va, il va provoquer les Juifs en disant « J'ai jamais trouvé une telle foi en Israël », par exemple, des choses comme ça. Puis il parle d'un païen à ce moment-là. Puis, donc, il est en train de donner des pistes que tu peux avoir une autre identité. Tu peux être vraiment un croyant qui plaît à Dieu sans être juif, tout ça. Fait que ça, c'est là. Puis Paul va développer ça particulièrement. Pourquoi est-ce qu'on s'en allait là? Parce que je crois que ça, c'est fondamental pour comprendre le célibat. Dans l'Église, on reste avec ces paramètres-là qu'on a hérités de la culture environnante, où on cherche à se définir par exemple, notre statut marital. Est-ce que je suis marié ou non marié? Ça fait partie de mon identité, c'est évident. Je veux dire, si les Écritures enseignent, bibliquement, les Écritures enseignent que celui qui se marie, ben les deux sont une seule chair. Donc, c'est clair que Esther et moi, si vous voulez me connaître, puis vous ne connaissez pas Esther, il y a beaucoup de moi que vous ne connaîtrez pas. Le fait que moi, je suis marié, ça définit beaucoup de mon identité. Mais dans le Nouveau Testament, comme chrétien, ce n'est pas le premier élément qui définit notre identité. On est loin d'être dans les premiers facteurs qui définissent ton identité. Et c'est ce qui fait qu'à travers tout le Nouveau Testament, tout l'enseignement sur le fonctionnement de l'Église, comment l'Évangile est vécu dans ses valeurs au milieu de l'Église, l'accent sur célibat, mariage, tout ça, il est très faible. Puis en fait, on trouve peu d'instructions pour les gens mariés. On trouve peu d'instructions sur l'éducation des enfants. Ça semble être plus aux chrétiens de prendre les principes, les valeurs que nous apporte l'Évangile, ce que l'Évangile nous enseigne, les valeurs de l'ensemble des Écritures, de se les approprier puis les communiquer à nos enfants puis les appliquer dans toutes nos relations interpersonnelles. Donc, lorsque Paul va adresser la question, par exemple, du mariage, il l'adresse à la lumière de l'Évangile. Il est en train de dire, OK, vous avez tout l'Ancien Testament, je vais vous expliquer. Vous comprenez que lorsque Paul enseignait, essentiellement, il enseignait à partir de deux choses, l'Ancien Testament, puis ce qu'il avait entendu des enseignements de Jésus, ça va? Certaines révélations aussi. On n'a pas le Nouveau Testament, il est en train d'écrire le Nouveau Testament. Et donc, qu'est-ce qui vous manque, les chrétiens, pour bien vivre votre mariage? Bien, quand tu lis Éphésiens 5, là, qui est pas mal le passage dans les épîtres des apôtres, quand tu lis Éphésiens 5, bien, en gros, il te manque l'Évangile. Tu sais? Il te manque, comme mari, de comprendre que tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, puis l'épouse doit être soumise à son mari comme l'Église l'est au Seigneur, tout ça. Fait que, il te manque l'Évangile. Fait qu'il ajoute ça, puis c'est à peu près un done deal. On passe au prochain sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis là? Vous avez l'impression que c'est un peu simpliste, mon affirmation. Un peu réducteur. Ça va? Vous n'avez pas l'impression que je force les Écritures? Ça, parce que c'est correct, si vous voulez... Si vous, il y a un malaise, vous vous dites, non, il me semble, Yannick, tu essaies juste de driver un point, puis tu sautes des textes. Fait que ça, c'est super important, parce que l'Église a la responsabilité de mettre en valeur cette nouvelle identité-là qu'on a en Jésus-Christ. On est des êtres humains, puis là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Fait que je pense que facilement, on perd ça de vue. Je pense que les pasteurs perdent ça facilement de vue. Moi, le premier, parce que si tu ne t'occupes pas des familles, comme je l'ai dit la semaine dernière, tu ne t'occupes pas des couples, ben, tu vas te rendre compte assez vite que tu vas avoir un paquet de situations à gérer. Fait que, je suis honnête, là, je vous dis comment est-ce que je vois ça. Là. Les couples, les gens mariés, puis les familles représentent une forte proportion d'une assemblée évangélique. Amen. C'est super, c'est génial, on va avoir des belles valeurs familiales. Pas de problème, c'est super. Maintenant, si tu ne t'occupes pas d'eux, avant longtemps, les couples ne vont pas bien. Avant longtemps, ça ne va pas bien avec les enfants. Si tu ne les aides pas à comprendre comment tu peux avoir un couple chrétien qui va s'épanouir, comment tu peux instruire tes enfants, tu vas l'avoir en pleine face comme pasteur. D'accord? Je ne veux pas être grossier, là, mais je veux dire, tu vas être débordé avec des situations de crise. Fait que tu leur donnes de l'attention. Fait qu'on va développer un ministère à la famille, puis tout ça. Puis c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Mais je pense que tout ceci contribue aussi à une espèce de panacée que après la conversion, le bonheur, c'est le mariage. Et trouver ça dans le Nouveau Testament, bonne chance de trouver ça dans le Nouveau Testament. Après la conversion, le bonheur, c'est le mariage. Cherchez ça dans le Nouveau Testament. Après la conversion, tu es marié à Jésus. Après ça, c'est des appels. Comprenez? C'est comme si quelqu'un venait me voir et me disait, OK, dans le fond, le don pour être le plus heureux, c'est d'être pasteur. Êtes-vous capable de défendre ça avec la Bible? Le don pour être le plus heureux. Paul n'a pas l'air toujours heureux. Là. Je pense qu'il y avait l'Évangile pour être heureux. Mais il y avait beaucoup de soucis, je pense. Fait que je ne suis pas en train de me plaindre. Là. Je ne suis pas en train de dire que je suis malheureux dans le ministère. Mais vous comprenez, c'est comme si je disais, OK, tu deviens chrétien, puis après ça, le bonheur total dans l'appel au service de Dieu, c'est devenir pasteur. Ça n'a rien à voir. Tu es devenu chrétien, puis une fois que tu as cette identité-là, ton bonheur se trouve non pas dans ce que tu vas réussir à accomplir, non pas dans ta profession, non pas dans ton statut marital, non pas dans tes dons spirituels. Ton bonheur se trouve en Jésus-Christ. Ton bonheur se trouve dans cette nouvelle identité-là. Et puis, viens avec ça, différents dons, différents appels. Oui, Paul. Vas-y, vas-y. Vas-y.
Moi, je peux vraiment dire qu'il y avait vraiment des gars qui voulaient aller dans le ministère dans les années 80, surtout. Là. Et l'affaire, c'était plutôt de trouver une femme le plus vite possible. Si tu vois qu'il voulait être dans le ministère.
OK, fait que Paul soulève une bonne question. Si un gars aspire à aller au ministère, il ne pourra pas y aller s'il n'est pas marié. Souvent, c'est une image qui va être véhiculée. Ça va être une image qui... Je suis content, dans notre association, on en a eu quelques-uns qui, au contraire, ne l'étaient pas. Je pense à des François Picard puis tout ça, qui ont des pasteurs super influents, qui éventuellement se sont mariés, mais ils étaient dans le ministère avant ça. Mais effectivement, il y a cette image-là. Mais je vous dis, écoutez, là, c'est gros comme le nez d'en face, cette affaire-là, là, l'apôtre Paul. Il est tout seul. C'est lui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. Comprenez? Puis, il adresse cette question-là. Le gars, il est pas pasteur. Il est pasteur, apôtre, il est tout. C'est lui qui écrit la majorité du Nouveau Testament. Il est seul. Il faut être marié pour être pasteur. Mais, tu sais, vous comprenez, c'est toutes des espèces de... C'est comme la culture qui nous suit. On sort d'une culture dans l'Église catholique où les curés n'étaient pas mariés, puis c'était pas toujours une panacée pour conseiller, tu sais, parce qu'en plus de ça, c'est pas nécessairement vécu comme un appel vraiment, puis tout ça, puis bon. Fait que oui, c'est intéressant d'avoir des gens mariés pour accompagner des gens mariés. Fait que bon, ça peut être intéressant pour un pasteur d'être marié si tu veux conseiller des gens mariés. Mais je veux dire, moi, j'ai pas de tentative de suicide de mon actif, fait que ça veut dire que je peux pas aider quelqu'un qui a fait ça. Bon, il faut pas... Il ne faut pas aller au-delà des Écritures. Cherchez dans la parole de Dieu beaucoup, là, cette idée-là que seule la personne qui a vécu quelque chose peut enseigner quelqu'un d'autre sur la base de ses expériences. C'est une pensée humaine. C'est une pensée humaine. Ce n'est pas sans valeur. Ce n'est pas sans utilité. L'expérience de la vie, nous dit les Proverbes, c'est la sagesse. Donc, ce n'est pas sans valeur. Ce n'est pas sans valeur pour un homme d'être marié, d'avoir des enfants, d'être pasteur puis d'accompagner des gens qui sont mariés. Ce n'est pas sans utilité. Mais de là à dire que celui qui n'a pas vécu telle ou telle expérience ne peut pas enseigner la parole de Dieu, c'est une aberration dans le Nouveau Testament, à mon avis. C'est un bon point. C'est un bon point. Alors, c'est la culture qui vient, qui entre. C'est une culture propre à l'intérieur de l'Église. Donc, je pense que la culture environnante, ce que la société véhicule, et puis il y a une culture propre à l'Église aussi, il y a une culture propre à chaque Église, qui va être un petit peu différente. Ceux qui ont changé d'assemblée, vous savez qu'il y a des différences culturelles entre chaque église. On se définit une espèce d'identité. Et donc, les besoins, la réalité font qu'il va y avoir un emphase, selon moi, qui dépasse l'emphase biblique sur le mariage. Puis ça devient, on a relevé de beaux exemples la semaine dernière, des gens qui, moi-même, là, ça m'a remis en question parce que je me suis dit, il y a quand même quelqu'un à qui je pose trop souvent la question, puis y a-t-il une fille? Fait que ça m'a challengé. Juste les commentaires la semaine dernière, j'ai dit, c'est pas adéquat, cette espèce de question-là avec laquelle je reviens. Je ne fais pas ça souvent, mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Et donc, notre identité dans le Nouveau Testament, c'est notre identité comme enfant de Dieu, comme frère et sœur en Jésus-Christ, comme disciple de Jésus-Christ, comme ami et frère et sœur de Jésus-Christ, c'est notre ami. Il y en aurait d'autres qu'on pourrait donner, mais en fin de compte, ça nous place tous sur un pied d'égalité, tous ceux qui sont en Christ. Puis après ça, il y a d'autres éléments qui sont là, c'est vrai. Il y en a qui sont appelés à être pasteurs. On va parler plus d'appel. Ça va? Donc, si vous allez au bas des notes de la semaine dernière, si vous les avez avec vous, on a une petite définition. Notre première définition du célibat sera donc, ceux et celles au sein de notre assemblée qui ont la possibilité, la liberté d'utiliser leurs dons entièrement pour le Seigneur. Et là, on va aller plus loin avec ça ce matin. Ceux et celles au sein de notre assemblée qui ont la possibilité, la liberté d'utiliser leurs dons entièrement pour le Seigneur. Et c'est l'apôtre Paul qui fait cet argument-là. On va aller le voir ensemble dans 1 Corinthiens 7. Je vais juste mentionner à la fin de la leçon, évidemment, ce que Jésus a enseigné sur notre statut marital une fois dans sa présence. On va tous être mariés avec Christ. Ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas d'autre mariage que notre mariage à Dieu. C'est bon? Donc, on va passer à la leçon 2. Est-ce qu'il y avait une question sur cette matière-là avant que je passe à la prochaine leçon? Ça va? Super. Parlons ce matin d'un don particulier qui est perçu par certains comme une malédiction plutôt qu'un don, le don du célibat. Puis je suis convaincu que certains d'entre vous voyez ça comme une malédiction si vous êtes en train de vous poser la question « Est-ce que Dieu m'a donné ce don-là? » Pourtant, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7:7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Mais en parlant du célibat, là, il l'a développé juste avant. « Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Si vous voulez comprendre, une fois qu'on a parlé de l'identité, si vous voulez comprendre ce que le Nouveau Testament enseigne sur le célibat, c'est vraiment 1 Corinthiens 7 qui est un passage important. Puis c'est un passage qui est glorieux. On va essayer de l'exposer un petit peu plus ce matin. Ça me faisait du bien de l'étudier. Ça me faisait du bien de plonger plus sérieusement dans ce passage-là. Qu'est-ce que le don du célibat? L'apôtre Paul va très loin en disant qu'il souhaiterait que tout homme soit comme lui seul. Écoutez, en préparation, j'ai consulté d'autres matériels, puis je suis tombé sur l'enseignement d'un pasteur, puis il n'était pas capable d'être aussi affirmatif que Paul. Fait qu'il prenait ce passage-là, puis il disait, Paul nous dit que ce n'est pas tout le monde qui est appelé au mariage. Oui, mais encore, Paul nous dit qu'il souhaiterait que tout le monde soit appelé au célibat. C'est ça qu'il nous dit. Fait que pour lui, c'est un appel c'est un don qui est glorieux. Il est évident que l'apôtre Paul voit de grands avantages à demeurer seul. Et Paul reconnaît que ce n'est pas un don pour tous, mais seulement pour certains hommes, certaines femmes que Dieu libère pour son service d'une manière particulière. Lorsqu'on parle d'un don, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire le mot-là, là, c'est le même mot que pour le don de guérison, le don de foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là? C'est quoi la théologie de ce mot-là, en gros, là, ce que vous en savez? Un brave qui s'essaye. Des fois, on appelle ça des charismes aussi, d'accord? Paul, je sais qu'il est capable si je le pousse, là, mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut parler que Paul? Non, mais il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Vas-y, Paul. C'est quoi ta compréhension des dons? D'un don?
En fait, là, je suis prêt pour un grand savant, puis je suis bien ignorant parce que je ne sais pas si c'est le mot charisma qu'il y a là.
Oui, c'est charisma qu'il y a là.
C'est ça. Mais le mot charisma, comme bien d'autres mots grecs, peut être utilisé d'une manière ou d'une autre selon le contexte que l'apôtre, le passage de suggère.
Oui. OK. Donc, ce serait un cadeau de Dieu, que Dieu donne à un individu pour le libérer ou pour l'équiper pour quelque chose en particulier. D'accord? Excellent. Bien, en fait, les deux sont là. François pose la question, est-ce que ça ne devrait pas être un don pour le mariage? Mais en fait, les deux sont là. Si vous regardez bien le passage que j'ai cité, 1 Corinthiens 7:7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Fait qu'avant de te marier, tu devrais savoir que ton appel, c'est de te marier. Mais ça, je vais y venir. Quand j'ai dit la semaine dernière en donnant le cours que je prie pour que certains d'entre vous décidiez de ne pas vous marier, j'étais très sincère. Parce que je pense que c'est un appel, le mariage. Puis je pense qu'il y a des gens qui se marient en ne sachant pas c'est quoi leur appel. Puis ils ne réalisent pas c'est quoi cet appel-là au mariage. Fait qu'ils s'en vont là-dedans. Puis comme je vous dis, après la conversion, deuxième étape vers le bonheur, c'est le mariage. trouves ça dans la Bible, Georges. C'est pas là, là. Fait que si ton appel, c'est à te marier, c'est correct. Il faut que tu l'assumes, ton appel. Il y a beaucoup de responsabilités avec cet appel-là. Fait que, donc oui, je pense que c'est un don. Lorsqu'on parle de don, on peut pratiquement interverser la notion d'appel. D'accord? Parce que, dans le fond, l'élément sur lequel je veux mettre l'emphase, là, puis je viens à toi, Flore, l'élément sur lequel je veux mettre l'emphase au départ, c'est que c'est un cadeau que Dieu fait. C'est Dieu qui donne ça. D'accord? Et que je décide de me marier, que je décide de rester seul, comme chrétien, je devrais avoir traité avec énormément de sérieux. Pas avec une course après la romance de dire « Ah, je vais vivre le bonheur, je vais avoir ma journée de noces, je vais avoir des enfants, on s'accomplit à travers nos enfants. » C'est presque une hérésie de dire ça, vous comprenez, là? À la lumière du Nouveau Testament, je m'accomplis à travers mes enfants. C'est quasiment une hérétique quand tu dis une affaire de même, là. Ça ne fit pas du tout dans le Nouveau Testament. Tu t'accomplis en Jésus-Christ parce que tout accompli pour toi. Fait que c'est un cadeau que Dieu fait. Et celui qui embrasse le mariage doit être convaincu que c'est l'appel que Dieu a placé sur sa vie. C'est le don qu'il lui a donné. Puis celui qui embrasse le célibat doit être convaincu que c'est ça. Puis à défaut d'avoir une conviction, bien, l'apôtre Paul est assez clair aussi. Je suis en train de pécher. Fait qu'après ça, il faut récupérer ça. D'accord? Donc, il y en a qui vivent le célibat malheureux parce qu'ils sont en train de traiter ça avec Dieu, puis ils ont peur que Dieu leur ait donné ce don-là. Je pense que c'est souvent le cas. Puis on a déjà évoqué beaucoup de pressions culturelles, beaucoup de choses. Puis il peut y avoir un désir très légitime dans ça aussi. D'accord? Puis il y en a qui embrassent le mariage, puis après ça, ils doutent de leur appel. Je sais, nous, on travaille avec eux. Oui, Flore. Oui, je vais le répéter. Vas-y.
Chacun tient de Dieu un don. Comment avoir la conviction qu'il s'agit d'un don et non une pensée personnelle?
Super bonne question.
Je veux aller vers là, je me convainc, c'est ça.
Excellente question. Excellente question. Donc, la question de Flore, c'est s'il s'agit d'un don de Dieu, comment procéder intérieurement pour pouvoir déterminer c'est quoi mon don, dans le fond, c'est quoi mon appel, est-ce que je suis appelé au mariage, je suis appelé au célibat, est-ce que, qu'on parle des dons spirituels, est-ce que je suis appelé à servir dans le ministère, tout ça. Ça se passe entre vous et Dieu, ça se passe entre vous, Dieu et l'Église. Et ma compréhension de ça, quels que soient les appels, quels que soient les dons, c'est quelque chose qui se passe rarement avec une révélation comme l'apôtre Paul en a eu, admettons, d'accord? Rarement, Dieu va envoyer un prophète qui va dire « c'est ça ». Mais je crois que ça peut arriver. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, ils m'ont dit « Yannick, j'ai une parole, je vais te donner ça. » Je prends ça, je dis « je le mets dans la prière, c'est beau, puis c'est dans mon journal, puis je mets ça dans la prière, c'est correct. » Maintenant, si un ange m'apparaissait puis il me disait « je pense que je ne discuterais pas beaucoup, je prierais moins longtemps. » Mais donc, ça pourrait arriver, mais rarement. Ce que je vois beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est que c'est un processus à travers lequel Dieu place une aspiration. Par exemple, Dieu donne des pasteurs, des docteurs à l'Église, mais l'apôtre Paul va dire « Celui qui aspire à la charge d'ancien désire une œuvre honorable. » Il aspire. Donc, il parle de mon aspiration. Il y a quelque chose qui est dans le cœur aussi qui est là. Donc, il y a un désir, il y a une aspiration. Si vous étudiez attentivement 1 Corinthiens 7, il y a vraiment une question d'aspiration, de désir. Paul est plus cinglant un peu, là, il va dire de non-maîtrise de soi. Fait que ton non-maîtrise de soi exprime ton désir. Fait que, donc, il y a quelque chose qui est en soi, avec laquelle je dois être à l'écoute. Je pense que je dois traiter ça dans la prière avec Dieu, énormément. Puis, je crois que l'Église est là pour discerner. Alors, je vais faire encore un parallèle avec le ministère pastoral, mais après ça, je vais revenir, admettons, au mariage. Moi, je me suis converti, là, écoutez, dans les 6 premiers mois, c'était clair pour moi, je veux devenir pasteur. C'était clair comme l'eau de roche. C'est pas souvent le cas pour la majorité des gens. Pour moi, c'était clair. Fait qu'en dedans de 12 mois, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, je veux être pasteur. J'aimerais ça que vous me formiez. Petit clin, ouin. Fait que Richard, il a dit, OK, on va voir, commence à prier là-dessus. Il m'a donné des directives. J'ai fait mes devoirs. Je revenais tout le temps. C'était dans ma tête, c'était là, c'était clair. Il m'a envoyé faire des devoirs, va prier là-dessus. Je lisais les Écritures. Je pleurais en lisant les Écritures. Parce que j'avais ce fardeau-là, puis je disais, Seigneur, Je lisais Les Mauvais Bergers, puis je dis, Seigneur, je ne serai pas un mercenaire comme ça. Si tu me confies une église, je ne serai pas un mercenaire comme ça. Dieu sait que je ne suis pas parfait, mais... Donc, à un certain moment donné, Richard il a dit, OK, je suis en paix d'entreprendre ta formation, mais il dit, c'est l'église qui va confirmer ton appel dans les années à venir. Moi, j'étais très en paix avec ça. Parce que c'est ce qu'on voit, entre autres, avec Timothée. On voit le témoignage que l'Église rendait de Timothée, ce qui a aidé Paul à discerner que Timothée était appelé. D'accord? L'appel de Marc. Paul, puis là, je vous regarde, puis la majorité d'entre vous, je pense, êtes assez familiers avec le Nouveau Testament. Le conflit qu'il y a eu entre Paul et Barnabas au sujet de Marc. Mais à un certain moment donné, vous aviez deux hommes de Dieu qui n'étaient pas d'accord possiblement sur l'appel de Marc ou sur la préparation de Marc. Puis finalement, Barnabas l'a pris sous son aile. Puis plus tard, dans les Épîtres, l'apôtre Paul va dire « Envoie-moi Marc, car il m'est fort utile pour le ministère. » Une chance qu'il y en a un qui a eu plus de discernement que toi. Hein? Mais vous comprenez? Donc, c'est pas simple. Pour répondre à ta question, Flore, c'est pas quelque chose de simple. Mais en même temps, c'est super important d'apprendre comme chrétien à chercher ces convictions-là. D'accord? Là, on rentre dans toute la question là, de la direction. Comment Dieu dirige? Comment Dieu dirige de manière personnelle? Où est-ce que je dois aller servir? Où est-ce que je veux travailler? Dans quelle profession? Est-ce que je me marie? Je ne me marie pas? Est-ce que je reste à Longueuil? Est-ce que Dieu m'appelle à aller en région? Est-ce que... Toutes sortes de choses. D'accord? C'est toute la notion de la direction de Dieu. Et il revient à chaque chrétien de développer une relation avec Dieu où j'apprends à être à l'écoute de ce qui se passe dans mon cœur, de ce que je vois dans la parole, des conseils des gens autour de moi, des portes que Dieu ouvre, des portes que Dieu ferme. Puis je prends des notes. Fait que des fois, je vous parle de tenir un journal personnel. C'est super important pour comprendre ce que Dieu est en train de donner comme direction dans votre vie. Fait que là, moi, la semaine prochaine, je pars encore 3 jours avec mes buddies. Là. Ceux qui sont familiers avec l'Église, vous savez, je fais des retraites avec 2 amis, avec le père de Justine, entre autres, 2 fois par année. Bon, bien, on part encore. Ça va être la 25e fois qu'on fait ça. Quand on fait ça, c'est des temps de prière, c'est des temps de consultation, c'est des temps de réflexion ensemble où on partage puis on discute. Et puis, j'ai mon journal de toute l'année. J'en apporte des fois des autres années. Puis, il y a un moment, il y a un après-midi où je passe à travers toutes mes pages. Je les survole pour voir qu'est-ce que Dieu m'a dit dans l'année. Parce qu'il y a des grands thèmes qui reviennent, il y a des choses qui reviennent, il y a des fois c'est un coup de masse dans le fond parce que tu dis, je te lis là mon homme, là, puis tu es en train de te plaindre d'être tombé dans le même péché que tu étais tombé il y a 3 ans, puis j'ai l'impression que ça pourrait être copié-collé les deux, fait que je vois aucun cheminement dans ta sanctification, fait que des fois c'est très dur à constater. Mais à travers ça, pour moi, ça, une partie de la réponse là, à ta question, Flore, c'est ça m'aide beaucoup à discerner la direction de Dieu dans ma vie. Donc, comment est-ce que je discerne la direction de Dieu? Mon appel, par exemple, ça se passe entre Dieu et moi, dans la prière, dans les aspirations de mon cœur, à l'écoute de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire dans sa parole. C'est un sujet plus vaste, là, si on voulait aller à fond là. Mais peut-être on l'abordera plus aussi avec dans la deuxième partie sur les fréquentations, parce que ça fait partie de ça, cette question-là, comment discerner avec qui me marierai-je? Donc, ça se passe dans la prière, l'écoute de mon cœur, mes aspirations, la parole de Dieu, les conseillers autour de moi, les gens qui me connaissent, qui sont des bons reflets pour moi. L'Église est super précieuse pour ça. Elle n'est pas parfaite, l'Église. Mais, tu sais, quand il y a une personne qui dit quelque chose, ça tombe peut-être 2, peut-être 3, peut-être 10, c'est peu probable. Vous comprenez? C'est ça. Le Seigneur l'a fait avec moi cet été. Il y avait de quoi qui me trottait dans la tête, que Dieu était, je pensais qu'il était en train d'adresser, ça ne me tentait pas bien. Juste avant que je parte en vacances, il y a un frère qui met ça sur la table, qui me pointe moi, qui dit, « Ouais, il y a telle affaire. » Je ne sais pas si je radote, là, si je voulais compter. Mais 2 semaines après, mon épouse adresse le même sujet. Là, c'était comme, Dieu l'aurait écrit sur le mur avec des doigts de feu, ça n'aurait pas fait de différence. C'était évident, puis c'était pas juste évident que Dieu parlait, c'était évident par l'œuvre de l'Esprit dans mon cœur. J'ai été convaincu de péché à ce moment-là. Boum! Puis quand la conviction était là, la grâce de marcher autrement est venue avec. Fait que j'ai dit à Esther, dans les heures qui ont suivi, j'ai dit, écoute, je veux pas prendre les choses pour acquis d'avance, mais je pense que mon cœur vient de changer. Fait que... Dieu m'a parlé. Boum, il a produit quelque chose dans ma vie. Mon attitude vient de changer. Puis là, je ne voulais pas présumer. Tu ne veux pas mais jusqu'à présent, on parle peut-être là depuis un mois et demi, par rapport à ce combat-là, mon cœur est changé. Ce n'est plus la même chose. Donc, Dieu m'a parlé. Comment est-ce qu'il m'a parlé? Puis ça se développe, cette communion-là avec Dieu, d'accord? C'est pas, j'ai pas un don, j'ai pas d'auréole comme pasteur, ma femme le sait, vous pourriez demander. Fait que c'est vraiment, puis plusieurs personnes dans l'Église connaissent, savent très bien de quoi je parle lorsque je raconte ça, parce que ça fait partie de leur expérience. Mais ça va avec toute cette idée de prier sans cesse, d'être sans cesse dans la parole de Dieu, d'être là devant Dieu pour examiner son cœur. Fait que c'est sûr que si vous n'avez pas ces disciplines-là dans votre vie personnelle, bien, ça s'improvise difficilement. Vous allez pouvoir, après 40 ans de vie chrétienne, dire « Dieu m'a parlé », mais souvent c'est de manière dramatique. Vous avez des endroits où Dieu vous a parlé de manière dramatique parce que c'était les moments où vous étiez disponible pour qu'il vous parle. Fait que... C'est ça, il a fallu qu'il sorte son porte-voix. Je reviens dans mes notes. C'était ta question à 100$ pour ce matin. OK, Flan. Non, c'est juste que je réalise que je suis parti là-dessus. OK, donc c'est un don. C'est un don que Dieu fait, c'est un cadeau que Dieu fait, c'est une grâce que Dieu fait, ça vient de la générosité du cœur de Dieu qu'il donne le don de se marier ou de rester célibataire. Et je suis conscient que pour certains d'entre vous, c'est comme quelque chose de lourd à entendre parce que vous pourriez craindre d'avoir ce don-là parce que vous dites « c'est pas ça que j'aspire dans mon cœur ». Bon, mais ça se peut déjà qu'avec ton aspiration, tu aies un peu d'informations sur ton don. Comme ça se peut que non. Ça se peut qu'avec le temps, Dieu change ton cœur aussi. Mais il s'agit vraiment d'une grâce de Dieu, un acte de la générosité de Dieu. Puis, je vous dirais, si vous n'arrivez pas à vous réconcilier avec l'idée que ça peut être une grâce de Dieu d'être appelé au célibat, à mon avis, vous ne devriez pas vous marier. Je répète ça. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier intellectuellement, si vous ne comprenez pas ce que Paul est en train d'enseigner ici théologiquement, là, que ça peut vraiment... Lorsque Dieu donne ça, c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu vraiment. Si vous n'arrivez pas à comprendre en quoi ça peut l'être, moi, je ne vous encourage pas à vous marier. Parce que c'est presque sûr que vous vous mariez pour les mauvaises raisons. C'est presque certain. D'accord? Oui, Paul.
Quand tu parles du célibat, est-ce que tu inclus aussi les personnes qui sont divorcées? Dans le sens que, oui, tu as été marié, puis ça pouvait être vraiment la volonté de Dieu, mettons, même si ça s'est mal terminé.
Alors, la question de Paul, c'est une excellente question. Est-ce que je parle des gens, par exemple, qui pourraient avoir subi un divorce, mais incluons les veufs, les veuves? Alors oui, moi, je pense que n'importe quand dans ma vie, je peux être appelé au célibat. Si Dieu vient chercher mon épouse demain matin, que Dieu m'en garde. Si Dieu vient chercher mon épouse demain matin, ça se peut que je découvre dans les mois, les années qui viennent, une fois que j'ai vécu mon deuil, que je suis appelé au célibat. Absolument. Puis je pense qu'en tout temps, Dieu peut appeler au mariage. Absolument, absolument. Fait que c'est pour ça que je ne voulais pas donner ce cours-là pour des adolescents. Je voulais donner ce cours-là pour toute l'Église. D'accord? Toutes les personnes mariées ici seront potentiellement appelées au célibat un jour. Parce qu'il n'y a rien qui dit que le Seigneur ne viendra pas chercher mon époux ou mon épouse avant de venir me chercher, vous comprenez? Toutes les personnes célibataires ici sont ou seront potentiellement appelées au mariage. Ça va? Excellente question, Paul. Ça va? Pas de trouble. Donc, c'est important d'aller comprendre la théologie qu'il y a derrière, puis comprendre qu'il s'agit d'un cadeau, d'une grâce de Dieu avant d'envisager le mariage. Puis si dans votre cœur, tout ce qu'il y a, c'est du cynisme, puis vous dites, Yannick, t'es tellement à côté de la plaque, mon homme, t'es marié, tu dis n'importe quoi, tu ne l'as pas vécu. Bon, vous pouvez me dire, tout ça, c'est vrai, mais allez vous réconcilier au moins avec Dieu, avec sa parole, d'accord? Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment vécu. Il s'agit donc d'un appel honorable et beau, comme le mariage est un appel honorable et beau. En fait, Paul dit qu'à l'un, il fait un don, soit le célibat, à l'autre, un don différent, soit le mariage. Dans les deux cas, il s'agit d'un cadeau de Dieu. L'expérience de 20 ans de ministère pastoral, de 23 ans de mariage, m'amène à dire que certains célibataires, tout comme certaines personnes mariées, luttent sérieusement avec la grâce, le don qui leur a été fait de la part de Dieu. C'est évident qu'il y a des gens qui sont célibataires, puis que Dieu a appelé à ça, puis qu'ils ne l'acceptent pas du tout. Puis je vous le dis, je ne suis pas sarcastique, c'est évident qu'il y a des gens qui sont mariés, que Dieu appelle à rester mariés, évidemment, puis qu'ils ne l'acceptent pas du tout, puis qu'ils luttent beaucoup avec ça. D'accord? C'est évident, c'est évident. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est gros là, ce que je vais dire, là, mais si je faisais lever la main, combien des gens mariés ici dans la salle accepteraient de vivre seuls jusqu'à la fin de leur jour pour sortir d'un mariage malheureux? Si ça fait un bout de temps que vous êtes dans l'Église, vous le savez. D'accord? Vous le savez. C'est triste là, ce que je dis, c'est pathétique. C'est pas mon cas, je peux vous rassurer. Mais vous comprenez? Fait que je pense que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, luttent avec leur appel. Mais on ne met pas ça de l'avant parce que le mariage, c'est une panacée. Donc, il y a juste les célibataires qui sont malheureux de ne pas être mariés, puis les mariés sont tous heureux de l'être. Étudiez en counseling biblique, vous allez voir. Un don pour la gloire de Dieu et l'édification du peuple de Dieu. Tout don que Dieu donne sert en définitive. Tout don de Dieu sert en définitive à la manifestation de sa gloire et à l'édification du peuple de Dieu. Je m'excuse, j'ai des petites fautes, j'ai fini un peu tard. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, notre identité première comme chrétien se trouve dans le fait que nous sommes enfants de Dieu. Et une fois que je saisis que mon identité est là, je peux entrer dans mon appel. D'accord? Mais tant que je n'ai pas saisi que mon identité est là, je vais mélanger mon identité avec les dons que Dieu m'a faits. Puis si je fais ça, je vais prendre les dons que Dieu m'a donnés, puis je vais m'en servir pour moi premièrement. Donc ça donne quoi? Un peut être pasteur en pensant qu'être pasteur, ça sert à définir ta valeur. Comprenez? Comme n'importe quelle profession que vous pratiquez, vous pouvez vous dire, c'est ma valeur se trouve dans mon succès professionnel ou dans mon insuccès. Moi, j'ai des gens dans l'Église ici qui sont handicapés, qui n'ont jamais pu travailler de leur vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur, si je vous comprends bien. Vous comprenez, c'est stupide comme raisonnement. Mais moi le premier, on entre dans ça. Et donc, constamment, je dois revenir à mon identité pour comprendre que mon don, c'est quelque chose que Dieu me donne pour le glorifier et pour le servir. Il y a un bonheur. Il y a une joie à entrer, à servir selon mes dons. Je ne suis pas en train de dire que dans le service de Dieu, il n'y a pas de bonheur. Mais Dieu ne t'a pas donné le don de pasteur pour que tu sois valorisé par les gens qui disent « Wow, pasteur, une chance qu'on vous a, parce que si on ne vous avait pas, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait. » Merci, c'est gentil, c'est encourageant. On a toujours besoin d'encouragement. Mais ma valeur ne se trouve pas là. Puis j'ai besoin de me le rappeler constamment. D'accord? Et si je ne réalise pas ça, ben je m'en vais dans le mariage en me disant « Voici la source de mon bonheur. » Je vais vous partager quelque chose, puis malheureusement, ça va vous amener à juger plein de monde. Mais peut-être que si vous écrivez vos vœux de mariage, vous allez les écrire différemment. Depuis plusieurs années maintenant, vous savez, la mode, c'est que tout le monde écrit ses vœux de mariage. D'accord? Il y a David qui est là, qui se dit « Aïe, il va falloir que je check si je les ai bien faites. » Pauvre lui. C'est ça. Maintenant, je donne des notes. Non, c'est pas vrai. Mais, vous comprenez, les gens veulent écrire leur vœu de mariage, tout ça. OK, super, c'est beau. Ce que ça donne, c'est que souvent, ça se transforme en le jour où je t'ai vu, j'ai su que tu comblerais mon cœur et que tu m'apporterais tout le bonheur que je désirais pour la vie. Ça ne ressemble pas beaucoup au mariage chrétien, ce que je viens de dire là. Comprenez? Ça ne ressemble pas à un appel. Ça ne ressemble pas à l'édification du corps de Christ, ça ne ressemble pas à la gloire de Dieu. Ça ressemble à « Enfin, nous formerons une nouvelle identité. Dans cette nouvelle identité, je trouverai tout mon bonheur parce que tu combleras tout ce que je ne suis pas. » Les vœux sont censés être comment je comprends mon appel en rentrant dans le mariage. C'est censé être ça. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Les gens écrivent leurs vœux, puis je leur fais prononcer des promesses après. D'accord. Puis je leur dis, je fais prononcer les promesses parce que, bon, j'ai pas besoin de faire un cours de 4 heures sur qu'est-ce que c'est des vœux. Ça vous donne un peu de latitude. C'est correct. Je veux dire, vous comprenez, ça peut être personnel, ça peut être joli. Moi, ma femme m'a chanté ses vœux, puis moi, j'ai lu un poème. Ça peut être joli, c'est pas ça le point. Mais c'est des vœux. Je suis en train de dire à Dieu, Puis je suis en train de dire à mon épouse comment je comprends l'appel dans lequel j'entre. Voici ce que je te promets d'être pour toi. C'est ça les vœux. D'accord? Donc, je suis en train de dire comment je comprends mon appel. Ça, c'est quand j'écris mes vœux. Fait que toute la notion de l'identité est super centrale pour pouvoir, après ça, entrer dans mon appel. Je suis appelé au célibat. C'est pas mon identité, c'est l'appel dans lequel je vais aller. Notre appel comme chrétien est à vivre et mourir pour Christ, quel que soit le don qu'il nous a fait. M'a-t-il appelé à être pasteur? Je suis appelé à me consacrer à cet appel. M'a-t-il appelé à me marier? Alors, viens avec ce don une charge bien particulière de sacrifice et de don de soi. M'a-t-il appelé au célibat? Alors, les responsabilités sont hautes. En toute chose, ma joie se trouve en Jésus-Christ. Puis, je veux dire, les gens qui se marient puis qui n'ont pas réalisé ça, ben tous les bons cours qui aident à rafistoler ton mariage ont tous, je vous le dis, là, quand vous allez aller en prendre, là, vous voulez savoir ça va être quoi la ligne à la fin, ça va être « Ton bonheur est en Christ ». C'est ça la fin du cours. On fait tous les détours pour vous aider à arriver juste à faire ça, d'accord? Puis c'est là que Dieu veut vous conduire. Fait qu'on, c'est ça qu'on vient de dire, « Ton bonheur est en Christ », quel que soit ton appel de célibat, le mariage. En toute chose, ma joie se trouve avant tout en Jésus-Christ. Ensuite, je suis appelé à servir le peuple de Dieu à travers mes dons. Donc, ce que Paul va dire, c'est que si je suis appelé au mariage, mon service va être beaucoup à la maison. Beaucoup. Mon service va être beaucoup consacré à prendre soin de mon épouse, à prendre soin de mon époux. On va pouvoir servir ensemble, mais cette relation-là, ce foyer-là, va demander beaucoup de mon attention. D'accord? Parce que c'est ça qui va se passer, ça va être ma responsabilité. Si je suis pasteur, mon appel à moi est beaucoup au milieu des chrétiens, je suis moins avec des non-chrétiens. Ta vocation à toi, c'est d'être ingénieur. Ton appel à toi, ça va être d'aller servir dans un domaine professionnel avec beaucoup de non-chrétiens. Oh, ça va être différent, d'accord? Et donc, ça demande à chacun d'arriver à un certain moment, à un endroit où il choisit d'embrasser son appel. Il choisit d'assumer son don. Quand je coach des gars pour le ministère, tantôt j'ai taquiné notre pianiste improvisé de ce matin. Vous allez retrouver notre super Oscar au piano parce qu'il dépanne ce matin. Je le taquine souvent puis je dis « Ah, c'est juste parce que tu ne veux pas assumer ton appel. » Il sait que c'est des taquineries. Là. J'ai pris le temps vraiment de préciser que j'étais juste en train de le taquiner. Mais quand je coach des gars, il y a ça dans le processus. Quand je coach des gars pour le ministère pastoral, il y a ça dans le processus. Est-ce que tu acceptes ton appel? Est-ce que tu veux entrer à fond dans ton appel? Est-ce que tu reconnais tes dons? D'accord? Et donc, si Dieu vous a donné ce don-là du célibat, vous ne trouverez pas un véritable bonheur puis vous n'arriverez pas vraiment à servir dans ce don-là tant que vous n'allez pas embrasser cet appel-là. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est un appel à vie. D'accord? Alors, une jeune fille de 17 ans, de 16 ans, qui prend une décision de faire attention de ne pas s'engager dans une relation d'amitié trop profonde, admettons avec un garçon ou avec une fille, vice-versa, parce qu'elle comprend que cette amitié-là pourrait évoluer dans quelque chose qui est plutôt pour le mariage. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire lorsqu'elle décide de renoncer à ça pour le moment? Elle est en train d'embrasser son appel au célibat pour l'instant. D'accord? Parce que devant Dieu, vous me suivez dans mon exemple? Devant Dieu, elle a considéré, puis elle a dit, c'est pas mon appel actuellement. Mon appel actuellement, c'est le célibat. Puis le jeune de 16-17 ans qui embrasse pas cet appel-là, qui ne l'accepte pas, qu'est-ce qu'il fait? Passe son temps à rêvasser. C'est des rêveries perpétuelles où tu es en train de jouer des games dans ta tête, puis tu es en train de rêver une romance qui va être extraordinaire. Tu es en train de faire tout ce qu'il faut pour que ce soit difficile ton mariage, parce que ça ne ressemble pas à ça le mariage, pour Saint-Saëns. Mais vous comprenez, pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'a pas embrassé son appel. Je ne suis pas en train de dire que si Dieu m'appelle actuellement au célibat, je ne peux pas avoir de l'espace pour prier puis envisager des personnes puis dire, Seigneur, peut-être que tu vas mettre quelqu'un sur mon chemin. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, d'accord? Il y a un équilibre à vivre dans ça. Mais la personne qui est dans une lutte perpétuelle, qui est dans des rêveries constantes puis tout ça, spécialement chez les jeunes, dans le fond, est tellement inculturée, tellement contaminée par la culture à l'extérieur, mais la culture dans l'Église, on l'a dit aussi, qui met une pression et qui fait une panacée du mariage, que cette personne-là n'embrasse pas du tout son appel pour les quelques années qui sont là. Puis, je veux dire, c'est, des jeunes, là, c'est super facile à voir. Regarde qu'est-ce qu'ils font de leur temps pendant ces 3, 4, 5, 6 ans. À quoi ça sert leur temps? Après quoi ils courent? Ceux qui sont heureux dans ça, tout en envisageant la possibilité que Dieu les appelle à se marier, ou même avec la conviction que Dieu les appelle éventuellement à se marier, mais que pour l'instant, c'est un appel au célibat. Mes amis, le temps pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, est utilisé de manière extraordinaire. D'accord? Puis il y a des très, très beaux exemples. Dans notre Église, il y a de très beaux exemples, vous en connaissez certainement. Donc, j'ai un choix à faire d'assumer le don que Dieu m'a fait. Il me reste quelques minutes, 2-3 minutes. On l'a mentionné déjà, je ne vais pas trop m'étirer là-dessus. C'est un don que Dieu donne pour un temps ou pour la vie. D'accord? Les deux sont possibles. Donc, je ne pense pas que quelqu'un doit répondre à la question pour accepter son appel au célibat. Est-ce que vous me suivez avec ça? Je n'ai pas besoin de savoir si Dieu ne m'appellerait pas à me marier dans 5 ans. Puis, on a des histoires, régulièrement, on a des histoires de personnes qui nous disent « Je ne courais pas après ça du tout, ce n'était pas du tout sur mon radar, j'étais juste en train de servir le Seigneur, boum, est arrivé. » L'histoire d'Esther et moi, c'est ça, parce qu'Esther devait se marier dans son plan de match à elle, qui était super clair, au moins 5 ans plus tard. Puis là, je suis venu scraper sa sauce. Fait que, mais vraiment, pour elle, c'était clair qu'elle n'était pas appelée à se marier dans comme 2-3 ans après que je sois arrivé, que je me sois converti. Mais elle était convaincue qu'elle était appelée au mariage, donc elle priait pour son futur mari. Elle priait pour son futur mari, qui était peut-être chrétien ou pas chrétien. Puis elle priait en disant, « Mais Seigneur, protège mon futur époux. S'il n'est pas chrétien, garde-le de briser sa vie dans le péché, puis conduis-le à l'Évangile. Puis s'il est déjà chrétien, fais-le maturer. » D'accord? Donc, il y avait comme une espèce... Esther est un bel exemple pour ça, un espace pour avoir ça puis embrasser ton célibat à fond. Puis si vous regardez la vie active dans le service de Dieu d'Esther dans ces années-là, avant qu'Yannick vienne scraper la sauce, boum, elle est en train de servir. C'est génial. D'accord? Non, c'est ça, un petit épice. On a mis un petit peu de piquant dans sa sauce. C'est une blague quand je dis scraper. Ah, OK. Clairement, si Dieu donne le don, il va conduire au contentement à travers ce don-là. D'accord? Donc, si Dieu donne le don, il va conduire au contentement. Si mon plus grand désir est de suivre Christ. D'accord? Fait que je peux rester longtemps en lutte. Puis ça, c'est que tu sois marié ou non. Tout dernièrement, je conseillais un couple marié, puis c'est une situation difficile, puis la dame souffre énormément. Puis... un peu dans l'image que je donnais la semaine dernière avec ma lance, ceux qui étaient ici, prendre la décision d'embrasser cet appel-là pour découvrir le bonheur qu'il y a de l'autre côté de la souffrance, bien, c'est là que tu vas trouver le contentement, puis la joie, puis le bonheur. De l'autre côté de la souffrance, quand tu embrasses cet appel-là avec toute la souffrance ou les renoncements qu'il peut y avoir. Et le passage de Philippiens 4 est super, super clé puis édifiant pour entrer dans ça. Et donc, Dieu donne vraiment le contentement, si c'est mon appel. Dans la mesure où c'est clair que je suis en train de suivre Christ. D'accord? Puis, je fais exprès pour faire beaucoup de comparables avec le mariage, parce que honnêtement, je ne suis pas en train de faire un sermon aux célibataires, là. Je pense vraiment que chacun, selon son appel, on peut être très malheureux dans notre appel. Mais on peut vivre aussi le contentement puis la joie. Alors, le point 4... c'est pas tout célibat qui est en fait la manifestation d'un don de Dieu. Il y a des gens qui sont dans le célibat, puis c'est pas un don que Dieu leur a fait. C'est qu'il y a des choses, soit qui s'en viennent dans le temps, plus tard Dieu les appelle à se marier, ou soit qu'il y a des choses que Dieu est en train d'adresser dans leur vie, ou soit que le couple est en train d'exploser, puis là, ils se retrouvent après ça célibataires, puis bon, mais là, peut-être ça va être un appel dans ce cas-là, d'accord, mais... Mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent me conduire. Ça peut être de l'immaturité. Ce sont des choses qui sont à travailler dans ma vie, qui font que c'est juste pas bon que je sois marié maintenant parce que je suis dans le péché. Je vais m'arrêter ici. Puis la semaine prochaine, on va parler un petit peu plus de la liberté du célibat. Ça va, même si je glisse d'une leçon à l'autre, on va arriver dans le temps, ça va assez bien. Fait qu'on continue ça la semaine prochaine. Si ce qui m'aiderait, Si je veux avancer dans la matière, je ne peux pas rester toujours uniquement sur le mode interactif, mais je vais chercher toujours à le faire un peu. Mais ce qui m'aiderait, c'est si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des questions, vous avez des commentaires, envoyez-moi ça. C'est super pertinent, d'accord? Ça va me faire plaisir de les lire, ça va m'alimenter, ça va m'aider. On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, on veut te bénir pour ta sainte parole qui nous aide, Seigneur, à penser avec une lucidité, une limpidité, Seigneur, digne de toi. Qui nous aide à mettre de l'ordre dans les valeurs qui peuvent venir de la culture environnante, de la culture même de l'Église, Seigneur, et qui n'ont pas été lavées par l'eau de ta parole vraiment. Et je te prie, Seigneur, de faire une œuvre profonde dans nos cœurs, afin de nous aider à entrer joyeusement dans notre appel, à te servir selon le don que tu nous as donné avec joie, Seigneur. Je te prie, Père, de faire une œuvre profonde aussi, afin que chacun soit en paix avec l'appel que tu lui donnes et qu'il y ait une fierté de dire « Je suis en train de te servir dans cet état-là, selon ce don-là que tu m'as donné, Seigneur. » Et je te prie pour toute l'Église de l'espoir qu'elle puisse grandir en maturité, vraiment, Seigneur, pour porter ces valeurs-là sainement, plutôt que de devenir un reflet de la société qui met une pression non inspirée par ton esprit, Seigneur, sur toutes sortes de personnes dans l'Église. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.